السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc on revient aujourd'hui, inshallah ta'ala, sur la suite de l'étude de la vie du prophète Mohammed صلى الله عليه وآله وسلم. On s'est arrêté la dernière fois à la bataille de Uhud. Et il est, à mon humble avis, utile, puisqu'on reprend après trois mois de période de pause estivale, il est utile de se rappeler les grandes étapes qu'on a déjà vues jusqu'à la bataille de Uhud. Tout d'abord, avant de parler de ces grandes étapes qu'on a vues jusqu'à la bataille de Uhud, Si on résume la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelques secondes, j'ai envie de dire, on peut la résumer en trois grandes parties. Et si on prend tout notre temps comme on le fait nous, on en est à la 10e année ou 10e saison, vous voyez les choses comme vous voulez, et on est toujours à la bataille de Uhud. Non. Mais en tous les cas, si on résume la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois grandes parties qui se distinguent. La première partie, c'est de sa naissance à la révélation, c'est-à-dire les 40 premières années de sa vie. De sa naissance à la révélation. Toute la vie qu'il a vécue, où sans le savoir, il se préparait, il était préparé à être prophète, mais il ne le savait pas. C'est la période la plus longue de sa vie, et c'est pourtant celle sur laquelle on s'arrête le moins. Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est à partir du moment où il est devenu prophète. Même si les 40 premières années de sa vie sont très importantes, parce qu'elles permettent aux musulmans de comprendre pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élu et choisi comme prophète. Il avait des valeurs, des vertus pour lesquelles il était reconnu avant d'être prophète et avant qu'il ne sache qu'il allait devenir prophète. Et ses vertus, ses valeurs allaient l'aider à être prophète. Et aussi, tout ce passif, 40 années de passif, allait l'aider aussi dans son message. Parce que, comme on le sait, nous, c'est que plus tard, lorsqu'il va recevoir la révélation, il va être persécuté par les notables de la Mecque. Ils vont devenir ses pires ennemis. Et pourtant, avant cela, il vivait en bon voisinage, en bon terme avec eux. Et ils sont les premiers témoins, ceux qui vont devenir ses pires ennemis, ses ennemis jurés, ils sont les premiers témoins de ses 40 premières années de vie. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables de dire: aujourd'hui, tu te dis prophète, et pourtant, hier, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu avais dit ceci, tu avais dit cela. Ils n'ont, entre guillemets, comment dit-nous, ils n'ont aucun dossier sur lui. Pas parce qu'ils ne le connaissaient pas, Au contraire, ils le connaissaient par cœur et ils savent qu'ils ne peuvent rien dire de négatif à son sujet. Et ça, ça montre aussi que le musulman, même si il n'y a plus de prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le musulman qui veut atteindre certaines responsabilités, qui veut être un leader, non seulement ça montre que les musulmans, les gens de manière générale et les musulmans en particulier, doivent aussi prendre en compte ça, le passif, pour choisir un leader, et celui qui veut devenir un leader doit aussi prendre en compte ça. On ne dit pas qu'il n'a pas le droit. Khlas, chacun a ses casseroles et ses défauts. Chacun a ses dossiers. Mais, en tous les cas, il faut le savoir. Il faut en prendre conscience. C'est-à-dire, il faut au moins prendre conscience qu'on sera probablement attaqué à cause d'un passé qui pourtant est probablement révolu. Donc ça, c'est la première partie, la première grande partie de sa vie qui pourtant, comme on a dit, on ne s'arrête pas beaucoup dessus. Ensuite, la deuxième partie de sa vie, c'est entre ses 40 et 53 ans. C'est-à-dire à partir du moment où il a reçu la révélation jusqu'au moment où il va faire l'émigration, le hijra, vers le Medina, Al-Munawwara. Cette deuxième partie va durer 13 années. Et c'est ce qu'on appelle la période mécoise parce que pendant cette période, il vit à la Mecque. Avant aussi, les 40 premières années, il a vécu à la Mecque, mais en tant que personne lambda. Alors que là, pendant ces 13 années, il vit à la Mecque en tant que prophète, il sait qu'il est prophète et il joue son rôle de prophète. Pleinement. Donc pendant ces 13 années de période mécoise, cette période se distingue surtout par ce qu'on appelle ad-da'wa. Ad-da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam, l'appel à Allah. Et en réalité, les premières années de cette da'wa se distinguent par le fait qu'il va surtout essayer de créer autour de lui un noyau dur. Il va tenter de convaincre d'abord les plus proches, parmi la famille, parmi la tribu, parmi les amis, les voisins, et essayer de constituer autour de lui un groupe fort, déterminé. Et ça va être aussi d'une importance capitale pour la suite. Parce que quoi qu'il arrive, quels que seront les doutes qui pourront faire vaciller certains esprits, il y aura toujours autour de lui ce noyau dur qui seront non seulement d'un soutien pour lui, mais aussi pour ceux qui pourraient arriver par la suite et qui de temps en temps peuvent être touchés par un doute. Et donc, on peut dire que la période de la Mecque se distingue par ça, par la da'wa, et en particulier par la constitution d'un noyau dur autour de lui. Le professeur Hassan, il n'a pas tout de suite été dans les tribus les plus éloignées pour faire da'wa, alors que c'est son travail. Il est prophète. Il a d'abord parlé aux plus proches, parmi sa famille, parmi ses amis, parmi ses voisins, dans sa ville, dans sa tribu. Non. La première mécoise se distingue aussi par la persécution, les tortures, le harcèlement, les menaces que les musulmans, le professeur sallam et les compagnons vont subir. Mais même si c'est une période extrêmement difficile, parce que c'est une période de persécution, c'est une période qui va forger les musulmans pour la suite. Ces grandes épreuves, les épreuves de la persécution, vont leur donner des qualités de patience, d'endurance, de détermination, qu'ils auront besoin par la suite. Lorsqu'ils ne seront plus seulement attaqués et persécutés par une tribu ou deux, par un groupe de personnes, mais lorsque toutes les tribus s'allieront contre eux. Toutes les armées du coin s'allieront contre eux. Ensuite, la troisième et dernière partie de la vie du professeur Salem, c'est celle dans laquelle nous sommes arrivés. Et on n'en est encore qu'au début. On est à la bataille de Uhud. qui a lieu la troisième année de la révélation. Et la période, cette dernière partie de sa vie, dure de ses 53 ans à ses 63 ans, puisque sa vie prendra fin à l'âge de 63 ans. Et c'est aussi une période qu'on appelle la période médinoise, parce qu'il va vivre à Médine pendant cette période. Cette période dure de l'émigration, comme on a dit, à Médine, jusque sa mort. Et pendant cette période, ou plutôt en tout cas cette période, se distingue par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus juste quelqu'un qui appelle à l'islam, il est aussi un leader, un chef. Chef pour sa communauté musulmane, mais aussi une référence, un leader, un chef pour toute la société médinoise. Puisqu'à Médine, il n'y a pas, au début, au moment où le professeur Hassan arrive, il n'y a pas que des musulmans. Il y a des musulmans, il y a les tribus juives, il y a les bédouins, il y a les idolâtres, etc. etc. C'est une ville cosmopolite. Ce n'est pas une ville homogène. Et le professeur Hassan va vivre avec toutes ses composantes, et il va faire en sorte que chacun puisse vivre avec l'autre dans la tolérance et dans le respect de la différence. C'est aussi une période difficile où le professeur Hassan, les musulmans vont alterner entre les difficultés et les périodes moins difficiles, puisqu'il y aura les guerres, nous on est encore aux périodes de guerre, mais ensuite il y aura les périodes de paix, de pacte, et la période de la libération de la Mecque vers la fin de sa vie. Naam. Maintenant, si on rappelle les grandes étapes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a tout d'abord évidemment sa naissance. Et les choses importantes à rappeler autour de sa naissance, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd son père alors qu'il est encore un bébé dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire que quand il naît, Il n'a déjà pas de père. C'est déjà difficile de perdre son père quand on est un enfant, quand on est... Non, lui, c'est il naît sans père. Parce que son père meurt alors que sa mère est encore enceinte de lui. Amina bint Wahb. Et son père, Abdullah ibn Abdel Muttalib. Et donc, il va être pris en charge par toute la famille de son père. Mais dès sa naissance, il est envoyé, donc c'est encore un bébé, un nourrisson, dans la tribu des Bani Sa'd. Et c'est surtout sa nourrice, Halimatus Sa'diyya, qui va s'occuper de lui, qui va l'allaiter, qui va l'élever, qui va lui apprendre à parler, à marcher, etc. Et il va vivre avec Halima Sa'diyya pendant les 5 premières années de sa vie, entre les 5 et 6 premières années de sa vie. L'événement marquant, ou les événements marquants de cette période, c'est comme on l'a dit, qu'il vit à la campagne des Bani Sa'd, il est pris en charge par sa nourrice Halima Sa'diyya. C'est la fameuse visite des anges qui vont venir lui fendre la poitrine, lui ouvrir la poitrine. Sortir son cœur, le laver avec de l'eau de Zamzam et en sortir le point noir qu'il a, comme n'importe quel être humain, un petit point noir qui peut grossir et polluer tout le cœur ou qui peut rester tel qu'il est. Quant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a envoyé des anges qui lui enlèvent ce point noir qui est naturel chez chaque être humain. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va être rendu à sa mère entre l'âge de 5 et 6 ans. Et sa mère va le prendre, elle est originaire de Médine. Donc elle va le ramener à Médine. Et lors du retour, elle va mourir sur le chemin du retour. Et il a à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 ans. Il perd sa mère alors qu'il a 6 ans, et qu'à la base il n'avait déjà pas de père. Donc on voit les épreuves que le prophète sallam subit déjà alors qu'il est tout petit. Ensuite, il va être pris en charge par son grand-père, qui va lui donner une très grande place, une place importante. On raconte par exemple la fameuse anecdote où il y avait un tapis à côté de la Kaaba, sur lequel avait l'habitude de s'asseoir le grand-père du prophète Mohammed sallam, Abdul Muttalib. Et personne n'osait s'asseoir dessus parce que c'était son tapis. Même en son absence, ses enfants, ses fils, ils s'amusaient autour du tapis, mais personne ne s'asseyait dessus. Ça ressemble au fauteuil du papa à la maison. C'est à peu près ça. En tous les cas, ses fils le respectaient tellement que personne n'osait s'asseoir dessus, même en son absence. Et lui, le prophète Mohammed sallam était un enfant, donc il s'amusait et il arrivait à venir sur ce tapis pour s'amuser dessus. Et donc, ses oncles, les fils de son grand-père, Abdul Muttalib, tentaient de le chasser du tapis. Parce qu'ils disaient, tu n'as pas le droit d'être là, c'est le tapis de ton grand-père, de notre père. Et lui, il jouait là. Et on raconte que quand Abdul Muttalib voyait que ses fils réprimandaient son petit-fils, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il s'était mis sur le tapis, alors il se mettait en colère contre eux. Et il leur disait, laissez-le. Parce que cet enfant, il n'est pas comme les autres. Une grande affaire l'attend. C'est-à-dire que son grand-père avait compris. Il n'avait pas compris qu'il allait devenir prophète, mais en tout cas, il voyait en cet enfant un enfant qui avait une destinée hors du commun qui devait l'attendre. Il le pressentait. Mais malheureusement, une autre épreuve, une nouvelle épreuve va s'abattre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'a que 8 ans. Son grand-père qui prend tant soin de lui et qui l'aime tant, meurt alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a 8 ans. Et à partir de 8 ans, il sera pris en charge par son oncle Abu Talib. Et Abu Talib, il a beaucoup de fils et il a du mal, c'est pas facile de nourrir toute sa famille. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit les premières années, les 10 premières années de sa vie comme ça, yani. Comme un enfant qui a été d'une main à l'autre, yani. Sa mère, sa nourrice, sa mère meurt, pas de père, son grand-père, finalement il se retrouve avec son oncle. Et il se sent, même s'il est un jeune enfant, là, il est préadolescent, il comprend son statut et sa situation. Il comprend qu'il n'est pas le fils de son oncle, qu'il est juste son neveu, et que son oncle a déjà d'abord beaucoup de bouche à nourrir. Il ne le met pas de côté, mais voilà, il ressent qu'il est un petit peu en trop. Et il ne veut pas être en trop. Alors qu'il n'est encore qu'adolescent, il va tout faire pour essayer de convaincre son oncle de pouvoir l'accompagner dans ses voyages commerciaux pour participer au financement, à la prise en charge de toute la famille. Afin que on n'est ni lui, ni son oncle, ni ses oncles, ni son oncle, ni ses cousins, n'aient le sentiment qu'il est là, et qu'il, alors qu'il aurait le droit, puisque c'est encore un enfant, c'est un préadolescent, qu'il est là et qu'il attend juste qu'on lui donne à manger et boire. Il veut participer. Il veut être digne de ce qu'il va consommer. Sauf que dans l'un de ses voyages, et selon beaucoup de versions, dans le seul de ces voyages qu'il va tenter d'accomplir, finalement il va devoir rebrousser chemin, parce que sur le chemin ils vont rencontrer un moine qui s'appelle Buhayra et qui va reconnaître en lui, en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en cet enfant, il va reconnaître en lui les signes de la prophétie. Et il va dire, cet enfant, si je ne me trompe pas, il va devenir le prophète que tout le monde attend. Et si c'est le cas, beaucoup de dangers le guettent. Beaucoup vont lui vouloir du mal. Donc faites attention à lui. Et Abu Talib, même s'il n'y croit pas trop, mais en tout cas, cette parole, elle lui fait peur. Elle lui fait prendre conscience que peut-être ce voyage, c'est pas quelque chose, C'est pas une mince affaire pour un enfant, pour un préadolescent. Donc il va le renvoyer à la Mecque. Et comme le professeur Asim est renvoyé à la Mecque, il ne peut pas participer aux voyages commerciaux pour ne pas se sentir de trop dans cette famille, il va faire autre chose. Il ne va pas dire, moi j'ai essayé, tant pis. Non, il va faire autre chose. C'est quoi? C'est qu'il va commencer à être berger pour les habitants de la Mecque, contre une compensation financière. Il prend leurs troupeaux, il les fait paître pendant toute la journée, il les rentre le soir. Quelquefois, ça pouvait même durer pas qu'une journée, mais plusieurs jours. Et en échange, on lui donnait quelques sous qu'il apportait à son oncle pour aider à subvenir aux charges de toute la famille. Non. Ce premier voyage commercial et le fait qu'il va commencer à devenir berger, c'est aux alentours de ses 13-14 ans, selon la plupart des versions. Ensuite, l'autre événement marquant, c'est ce qu'on appelle Harbul Fijar, qui va se terminer par un pacte qu'on va appeler Hilful Fudul. Et c'est aux alentours de ces 20 ans que va se dérouler cette guerre. On note dans les versions historiques que le professeur Sam aurait participé à cette guerre, c'est une guerre tribale, mais qu'il ne servait surtout qu'à donner les flèches à ses oncles qui participaient à la guerre. Il ramenait les flèches et il leur donnait pour que ça aille plus vite, quand ils tiraient leurs flèches. Mais il n'a pas participé directement au combat. Cette guerre, elle a concerné les tribus de la Mecque et des alentours, qui se sont battues par esprit de tribalisme. Chaque tribu voulait défendre son honneur, coûte que coûte. Ça avait commencé par une injustice, une bagarre, une querelle, une rixe entre deux hommes, et les deux tribus ont défendu leurs hommes sans regarder ce qui s'est passé. Normalement, la cohérence, la justice, l'équité veut que quand il se passe quelque chose, même si c'est quelqu'un de ta tribu, de ta famille, tu vérifies d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes bagarré? Ah, il t'a frappé. Mais pourquoi il t'a frappé? Ceci, cela. Ah, d'accord. Toi aussi, tu l'as cherché. J'ai pas dit qu'il a raison de te frapper, mais tu l'as cherché. Et ça permet de mieux comprendre les choses et ça permet d'être juste et équitable. Ici, les tribus, non. Les tribus ne regardaient pas ça. Les tribus ne s'occupaient que de savoir, dans la bagarre, est-ce qu'il y a quelqu'un de notre tribu? Oui, un tel, on défend un tel. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on n'en sait rien. Mohim, il fait partie de notre tribu, on le défend. Aveuglément. Et donc, cette guerre, ça va être une guerre qui va être déchaînée parce qu'au final, ça va commencer entre deux hommes. Et ça va se propager à deux tribus. Et ensuite, ces tribus-là, elles ont des autres tribus alliées avec lesquelles elles ont des engagements. Et donc, ça va se propager, cette guerre et cette guerre tribale, elle va se propager aux autres tribus alliées. Et ça va se terminer par un pacte qu'on appelle Hilful Fudul. Et ça, c'est un prémisse de l'arrivée de l'islam. Parce que l'islam est venu pour remettre de l'ordre, pour remettre en place un esprit de justice et d'équité dans le monde et parmi l'humanité. Et le prophète Hassan va assister à ce qu'on appelle le pacte de l'Fudul, où les tribus arabes, pour la première fois, vont décréter qu'il ne faut plus se faire la guerre juste parce qu'une personne appartient à notre tribu et qu'on veut le défendre aveuglément, mais qu'il faut défendre la victime d'injustice. Ça va rester une théorie. Ils ne vont pas, ou en tout cas très rarement, le mettre en place parce que ça fait des décennies, des siècles, des générations qu'ils vivent dans cet esprit de tribalisme. Donc ce n'est pas facile du jour au lendemain de le changer. Mais en tout cas, il y a un esprit qui arrive. Il y a un nouveau vent qui souffle et qui est annonciateur de la proche venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète de la rahma, le prophète de la miséricorde, le prophète de la justice, le prophète de l'équité. Et ça, cette Harb al-Fijar et Hilf al-Fudul a lieu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, a 20 ans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on peut parler comme événement marquant pendant toujours cette première période, dans ses 40 premières années de sa vie, c'est son mariage avec Khadija radiallahu anha. Elle se marie avec Khadija alors qu'elle a 25 ans et qu'elle en a 15 de plus que lui, c'est-à-dire qu'elle a 40 ans. Et elle se marie avec Khadija radiallahu anha. Et c'est la seule épouse qu'il aura jusqu'au décès de Khadija. C'est par la suite qu'il aura plusieurs épouses, mais à partir de ce moment-là, il n'aura qu'une épouse, Khadija radiallahu anha. Et Khadija radiallahu anha va être une épouse qui va lui être d'un soutien sans faille. Et qui va être, son rôle va être extrêmement important dans la révélation, dans la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle va le soutenir, elle va l'encourager. Elle ne va jamais douter de lui. Non. Et il n'y a pas plus fort dans la vie de l'être humain pour l'homme que d'avoir une épouse qui est à ses côtés, qui est là pour le soutenir, pour l'encourager, et non pas pour l'enfoncer, pour l'humilier, pour l'écraser. Et inversement, il n'y a pas plus fort, plus puissant pour une femme que d'avoir un époux à ses côtés dans sa vie qui est là pour l'aider, pour la soutenir, pour lui faciliter les difficultés, et non pas pour l'humilier, l'écraser, et pour l'apprendre, que ce soit dans les paroles ou dans les faits et gestes, comme une moins que rien. Et c'est ainsi que doivent être construits les couples musulmans, qui sont touchés aujourd'hui, comme les autres couples d'ailleurs. C'est un fléau de notre société, de notre époque, le divorce. Et quand les gens divorcent, chacun a son histoire. Chacun a son histoire personnelle. Et tous ceux qui divorcent, ils ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est la chose la plus facile à faire. Ils le font tous parce qu'ils pensent qu'ils ont tout essayé et qu'ils n'en peuvent plus, à un tel point que cette séparation ou cette déchirure même, ils la voient comme quelque chose de moins pire ou de meilleur en tout cas que toutes les autres situations. Mais en tous les cas, dans la plupart des cas de divorce, quand on reprend les choses, finalement on voit que le problème il est là. C'est que ces deux personnes vivent ensemble, mais qu'au lieu d'être un vrai couple qui est là pour s'entraider, pour se soutenir mutuellement, dans le comportement, dans les attitudes, dans la façon de parler, ils sont toujours là pour montrer du doigt l'un l'autre, l'une l'autre. Une fois ça va, deux fois ça passe, mais au bout de plusieurs dizaines de fois, soit les deux, soit l'un des deux, comme on dit familièrement, pète un plomb, tout simplement. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija radiallahu anha sont un exemple aussi dans le mariage. Ils sont un exemple dans le mariage alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas encore qu'il était prophète. Et il continuait à être évidemment un modèle et un exemple dans le mariage après la révélation. Ensuite, le grand événement marquant, ça va être la reconstruction de la Kaaba, qui va avoir lieu aux alentours des 38-39 ans du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Kaaba tombe en ruine. Ça fait des siècles qu'elle n'a pas été rénovée. Et c'est un endroit sacré, même pour les idolâtres. Pour la reconstruire, il faut la détruire. Et ils n'osent pas. Et ils sont superstitieux, ils ont peur qu'en détruisant un endroit aussi sacré, un malheur ne s'abatte sur eux. Eux, s'ils la détruisent, c'est pour la reconstruire mieux. Mais ils ont peur qu'en donnant des coups de pioche dedans, un malheur va s'abattre sur eux. Et finalement, un homme déterminé, Walid ibn al-Mughira, va mettre le premier coup de pioche. Et même comme ça, les tribus vont dire « il faut attendre. Il faut attendre 3 jours pour voir s'il va lui arriver quelque chose. S'il ne lui arrive rien, c'est qu'on peut détruire. S'il lui arrive quelque chose, c'est qu'il ne fallait pas la toucher. Quand ils vont voir qu'il ne lui a rien arrivé, ils vont dire c'est bon. Et donc ils vont la détruire, ils vont la reconstruire. Ils vont reconstruire la Kaaba, alors qu'à l'époque elle était sous forme de rectangle. Ils vont la reconstruire sous la forme qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire un carré. Pourquoi ? parce qu'ils vont émettre comme condition que tous ceux qui veulent participer financièrement à la reconstruction de la Kaaba, il ne faut pas ramener de l'argent sale, de l'argent illicite, de l'argent des intérêts, de l'argent volé, de l'argent qui produit d'un mauvais commerce. Ils se permettaient ces choses-là dans leur vie de tous les jours, les idolâtres. Mais ils considéraient que pour construire, pour reconstruire, rénover un endroit sacré, on ne peut pas utiliser de l'argent sale. Et le problème, c'est que la plupart de leurs richesses, ils étaient riches, la plupart de leurs richesses étaient basées sur ça. Donc ils ont ramené le peu d'argent halal qu'ils avaient, et après ils n'avaient plus assez pour terminer. Donc ils ont fait juste un carré. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir un rôle dans cette reconstruction, c'est que lorsque la reconstruction elle sera bientôt terminée, qu'il faudra remettre la pierre noire à l'intérieur de la Kaaba, chaque chef de tribu va dire « c'est à moi que revient l'honneur de remettre la pierre noire ». Et là, les tribus sont sur le point de se faire la guerre, parce que chaque tribu dit « c'est à nous de que revient cet honneur ». Et donc, pendant plusieurs jours, les travaux sont suspendus parce qu'il y a cette querelle et tous les chefs de tribu jurent que si c'est un autre qui réinstalle la pierre noire à l'intérieur de la Kaaba, si c'est un autre que eux, alors il y aura la guerre. Et donc, personne n'ose toucher la pierre noire parce que si quelqu'un la remet, tous les autres lui déclareront la guerre. Et ils n'arrivent pas à trouver d'arrangement. Et finalement, ils disent, voilà ce qu'on va faire. Alors qu'ils sont en pleine négociation pour parler, le premier homme qui va rentrer, nous lui faisons confiance tous et nous nous soumettrons à sa parole, quelle que soit la tribu à laquelle il appartient. Et lorsque ils vont dire d'accord, et c'est le professeur Hassan qui va entrer. Et lorsqu'ils vont le voir entrer, ils vont s'exclamer, As-sadiq al-amin. Le véridique, le digne de confiance. Alors qu'il a lui aussi sa tribu et que sa tribu voulait remettre la pierre noire. Mais quand ils l'ont vu, ils ont dit lui, il n'a pas l'esprit tribaliste comme les autres. On sait qu'il va juger avec justice, avec sagesse. Donc non seulement on s'était engagé à se soumettre à ce que la première personne qui entre allait décider, mais là ça nous rassure encore plus. On sait qu'il va décider quelque chose de sage et quelque chose de juste. Et juste après ça, le professeur Hassan va devenir prophète. Il va recevoir la première révélation. Allah Azza wa Jalla a voulu qu'il y ait cet événement pour que ceux qui allaient devenir ses ennemis, tous ses chefs de tribu, ses notables, disent et avouent par ce grand événement « As-sadiq al-amin ». Le digne de confiance, celui qui dit la vérité. C'est-à-dire, aujourd'hui j'ai reçu la révélation. Ah, c'est pas vrai. On ne croit pas en toi. Qu'est-ce que tu disais juste hier ? Juste il y a quelques jours, juste il y a quelques semaines. Ah. As-sadiq al-amin. D'une certaine manière, c'est pour, à l'avance, bloquer, coincer les obstinés, ceux qui allaient refuser catégoriquement la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur recommander de remettre tous ensemble en fait la pierre noire tout simplement sur un drap et que tout le monde prend une partie de ce drap pour que cet honneur revienne finalement à tout le monde et que tout le monde peut se vanter d'avoir participé à réinstaller la Kaaba, la pierre noire dans la Kaaba, sans que ceci ne cause de querelle ni de guerre. Et à l'âge de 40 ans, le prophète Hassan va recevoir la première révélation. Et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et c'est là aussi qu'on va voir le rôle que Khadija va jouer. Elle va d'abord le rassurer, le calmer. Et ensuite, elle va l'accompagner, lui conseiller d'aller voir Waraq ibn Nawfal, qui est un érudit converti au judaïsme, qui va lui annoncer que ce qu'il vient de recevoir, c'est la révélation et qu'il est le dernier des prophètes. Mais il n'y croit pas trop. C'est lors de la deuxième révélation où là, vraiment, il comprendra, puisque Jibril va lui dire lors de la deuxième révélation. Première révélation, c'est juste qu'il lui récite, il le serre fort, hein, donc il est perturbé, et il lui récite les 5 premiers versets de Surat al-Alaq. Iqra. Il ne lui dit pas, tu es prophète, voilà ce qui se passe, etc. Non, Et donc il est heurté. Par contre, lors de la deuxième révélation, lors de la deuxième apparition, il entend clairement que Jibril lui dit « Je suis Jibril, l'ange Jibril, et tu es le messager d'Allah. » Et donc à partir de ce moment-là, il prend conscience qu'il est prophète. Et les trois premières années de la période mécoise en tant que prophète, il va se concentrer à faire da'wah, comme on l'a dit tout à l'heure, auprès des plus proches, de sa famille, de constituer un noyau dur. Et il va leur enseigner l'islam. Et il va les aider à pratiquer l'islam, mais dans un endroit caché, dans la maison de l'Arqam, Ibn Abi al-Arqam. Au bout de ces trois années, lorsque le prophète a 43 ans, il va faire la da'wah au grand jour, à toute la ville de la Mecque. Et donc même si les Mécois ont commencé à entendre parler de cette histoire, mais dans les faits, il n'y a rien, il ne faisait rien, sauf que là, au bout de la troisième année, ça devient une histoire publique, une affaire publique. Et donc ils vont s'y opposer, manu militari, par le harcèlement, par le chantage, par la dissuasion, par les coups, par la persécution, par les tortures. Ils vont s'en prendre en particulier aux plus faibles. Le professeur Sam personnellement sera frappé, sera torturé. Il y aura des tentatives d'étranglement. Oui, on a déjà parlé de tout ça en détail. Et donc, le professeur Sam va finalement conseiller, au bout de 2 ans de persécution non-stop, il va conseiller à ceux qui n'en peuvent plus et qui sont au bout du rouleau, et qu'ils n'ont personne pour les protéger, pour les soutenir, pour les défendre contre ces tortures et ces persécutions, il va leur conseiller d'aller se réfugier chez un roi chrétien, le roi d'Abyssinie, qui est un roi juste, qui aide les opprimés, quelle que soit leur religion. Le roi Négus, Najashi. Et donc il envoie à la tête de la délégation qui accompagne ceux qui ont besoin de ce refuge, il envoie son cousin Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Les Mécois, qui ont de bonnes relations avec ce roi, vont tenter de convaincre Najashi de le rendre. Mais Najashi, quand il va entendre leurs paroles et ce qu'ils disent sur le prophète Issa, alayhi salam, il va les protéger, accepter de leur donner l'asile et le refuge dans son royaume. Et ça va mettre en colère, évidemment, les idolâtres de la Mecque qui vont décider de mettre en embargo les musulmans qui sont restés. Et tous les idolâtres de la Mecque qui refusent de s'opposer ouvertement aux musulmans, comme l'oncle Abu Talib du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était idolâtre. Mais comme il refuse de leur livrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il continue de le protéger, tous les idolâtres qui protègent les musulmans, ils sont mis sous embargo. Embargo social, embargo économique, embargo familial, etc. Même parler, on ne leur parlait pas, on ne leur vendait rien, on ne leur donnait rien. À un tel point que pendant des périodes, ils ont dû manger des feuilles des arbres et même certains des bouts de carcasses, de peaux d'animaux morts parce qu'ils n'avaient plus rien. Et donc l'émigration en Abyssinie, c'était la cinquième année, lorsque le professeur Sam avait cinquième année de révélation, lorsqu'il avait 45 ans. Et donc, il va y avoir l'embargo. Et ensuite, après l'embargo, lorsque l'embargo va prendre fin, c'est ceux justement qui... des gens qui étaient d'accord avec l'embargo et qui ne soutenaient pas les musulmans, mais quand ils vont voir que les musulmans meurent de faim, et surtout... que des gens comme eux, des idolâtres, juste parce qu'ils ont refusé de s'opposer ouvertement aux musulmans, eux aussi vont être mis dans le même sac. Ils vont finalement revenir sur ça. Et Mouhin, on avait raconté en détail par quel miracle aussi l'embargo va prendre fin. Et il va prendre fin, cet embargo. Et là, arrive la dixième année de la révélation. Le professeur Sam a 50 ans. Et cette année-là, c'est ce qu'on appelle Amul Huzn, l'année de la douleur, parce que le prophète Sassim va perdre. Khadija va mourir, et son oncle Abu Talib, à quelques jours d'affilée, selon certaines versions historiques, en tout cas la même année. Ensuite, il va décider de partir à la ville qui est à un peu plus de 80 km au sud de Mecca, la ville de Taif, pour y faire da'wa, mais il y sera très mal reçu, à un tel point que des enfants vont le pourchasser, les vagabonds vont le pourchasser à coups de pierre, etc. Il sera fortement blessé, ensanglanté. Naam. Ensuite, la onzième année, le prophète sallam commence à faire da'wa aux tribus qui viennent de loin pour l'occasion du pèlerinage. Ils viennent pour l'occasion du pèlerinage. Le prophète sallam profite des jours de Mina pour leur faire da'wa. Pendant la 11e, 12e année, il va y avoir le voyage nocturne. Et aussi les 6 premiers convertis de Médine. La 12e année, il va y avoir le premier serment d'Al-Aqaba, c'est-à-dire une délégation qui est envoyée de Médine pour se convertir à l'islam et pour prêter serment d'allégeance au professeur Hassan. Et la 13e année, il va y avoir le deuxième serment d'Al-Aqaba, il y aura encore une plus grande délégation qui va venir de Médine pendant la période de pèlerinage pour ramener plus de convertis et aussi pour prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachant qu'entre les deux années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé son compagnon Mus'ab ibn Umayr pour enseigner l'islam aux gens de Médine. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord les musulmans, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam vont faire l'émigration vers Al-Madinah. On ne va pas revoir en détail ce qui s'est passé pendant cette émigration, mais ce sera une aventure semée d'embûches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera pourchassé à travers le désert par toutes les tribus, d'abord par la Mecque et ensuite par toutes les tribus. Et les uns après les autres, les gens qui le pourchassent comme Suraqa ibn Malik et d'autres, finalement, se rallient à sa cause et le protègent et le cachent. Il va passer par chez Abu et Umm Ma'bad, par les Bani Moudlij, etc., etc. Le professeur Sim sort de la Mecque. Pour résumer, c'est quoi l'émigration? Le professeur Sim sort de la Mecque de nuit avec Abu Bakr Siddiq et leur guide et il se cache pendant plusieurs jours dans une grotte. Et il arrive à Médine avec plusieurs dizaines d'hommes armés jusqu'aux dents qui le protègent. Tout ce qui s'est passé entre deux, si on l'oublie, c'est ça, si on résume l'émigration. Alors qu'à la base, ces dizaines d'hommes, c'était une tribu qui cherchait le professeur Sallam pour le tuer. Et quand ils l'ont trouvé, le professeur Sallam leur a parlé, il les a convaincus. Eux, ils voulaient juste la rançon. Ils ne comprenaient pas l'histoire. Mais finalement, quand ils vont attraper le professeur Sallam, le professeur Sallam va leur dire, juste écoutez-moi et ensuite faites de moi ce que vous voulez. Ils vont l'écouter, ils vont être convaincus par sa sagesse et par sa justice. Non. Il arrive le professeur Sim un lundi à Quba. Il y passe quelques jours jusqu'au vendredi. Il y inaugure la mosquée de Quba. Ensuite, le vendredi, il prend la route pour Médine. C'est juste à 5 km. Mais chaque tribu par là où il passe veut le voir, veut le prendre quelques instants. Et en chemin, il préside le premier Jumu'ah. C'est son premier Jumu'ah, en groupe, en public. Et ensuite, le vendredi, en fin de journée, il arrive Al-Madinah al-Munawwara, et il sera accueilli chez les Bani Najjar, et en particulier dans la demeure du compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Et donc, en ayant dit ça, on a résumé les deux grandes parties de la vie du professeur Sallam. Il nous reste à résumer, à partir de l'émigration, jusque là où on est arrivé, la bataille de Uhud, et ce résumé-là, c'est ce que nous ferons la fois prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.